France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Une œuvre que j'entends, je l'entends toujours pour la première fois. C'est dans un renouvellement perpétuel, un émerveillement toujours répété, que s'articule l'expérience de la musique de la professeure et compositrice Nadia Boulanger. Elle ne se lasse jamais d'une symphonie, d'une fugue, d'un thème, même d'un simple intervalle de notes, car l'expérience est toujours nouvelle. Dans des termes savants, on pourrait parler d'une paradoxale expérience sémelfactive, qui n'arrive qu'une fois dans une vie, et ce malgré sa répétitivité. C'est un rapport au temps et à la répétition qui enchante littéralement le monde de Nadia Boulanger, comme une reprise radicale de l'aphorisme d'Héraclite. Nul homme ne se baigne deux fois dans le même fleuve, car, la seconde fois, ce n'est plus ni la même eau, ni le même homme. Ce 13e et dernier entretien au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 16 août 1978, est encore animé par cette joie de vivre et cette passion débordante de Nadia Boulanger, mais aussi par une certaine nostalgie, revenant avec une forme de douleur larvée sur des scènes du passé. Le temps, malgré cette renaissance constante de toute musique dans ses oreilles et son esprit, ne s'est pas arrêté pour autant. Nadia Boulanger s'éteint le 22 octobre 1979, à l'âge de 92 ans, 3 ans après avoir enregistré ses entretiens, véritable trésor radiophonique dont voici la dernière partie.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres, Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots, elle est la musique en personne. Saint John Perse.
Francis Monté était un grand pianiste français qui avait été un enfant prodige extraordinaire. Et ayant 8 ans, il vient jouer un soir chez Liszt, où il y a toutes les belles dames, Liszt en robe d'abbé, et puis toutes les duchesses, les grandes duchesses, les super duchesses, tout le monde, la grande société. Et au bout d'un certain temps, Liszt joue, le petit joue, et puis on se lève pour aller souper. Un monsieur vient au petit Francis Planté et lui dit, « Tu vois, dans ce coin, ce monsieur qui est tout seul, va, demande-lui de jouer pour toi, il viendra. » Le petit, « Monsieur, voulez-vous venir jouer pour moi ?» Le monsieur se lève, vient jouer. Qui était le monsieur ? Chopin. Ceux qui étaient dans la salle à manger n'ont même pas entendu qu'on jouait. Ça s'est passé entre le petit Francis Planté et Chopin tout seul, alors qu'il y avait ici le salon et là la salle à manger.
C'est Francis Planté qui vous a raconté cela ?
Qui m'a raconté ? Quand il venait à l'hôtel des Saint-Pères, rue des Saint-Pères, et qu'il vous montrait, il vous recevait avec ses vêtements, comme chez Glenn Gould, les vêtements qui pendaient. Puis au milieu de la pièce, moi je ne connaissais pas beaucoup, un bain de pied préparé. Il était très original, mais très intelligent. Et les gens jeunes qui revenaient l'été de Mont-de-Marsan, où ils avaient été reçus par Planté, revenaient morts. On dit, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air malade. Mais j'arrive de chez Francis Planté. J'ai alors, Ah ben, vous savez, on se lève à 6 heures du matin pour aller à la chasse, et puis on joue aux cartes, et puis on déjeune, on prend le café, on fait de la musique pendant très longtemps, on retourne, enfin, on fait du déchiffrage. Enfin, des journées que des garçons de 22, 23 ans revenaient au bout de 3 jours morts. Il avait 80 et des années. Comme est aujourd'hui Rubinstein. Moi, je déjeune chez M. Arthur Rubinstein et sa femme. Ils sont trois. Ils ne veulent pas tirer personne. Nous nous connaissons depuis, je ne sais pas, je ne peux même pas compter des années. Ils racontent des histoires si irrésistibles que je déjeune difficilement, je pleure de rire. Comme c'était avec Francis Poulenc. Il y a un certain dîner chez les rois où il nous a raconté une histoire absolument inintéressante. Il est venu à Vienne pour prendre son sleeping. Le sleeping était déjà occupé par quelqu'un. Il a fallu faire déménager ce monsieur. Donc, aucun intérêt. Il nous a raconté ça de telle manière. Nous avons commencé à pleurer de rire tellement c'était drôle. L'air stupéfait et un peu abruti de l'employé du wagon, du monsieur qui dit « Mais monsieur, moi j'ai le billet, voilà mon billet. » Enfin, on a remué toute la gare. Ben, c'était irrésistible, il n'y avait rien de drôle. Il y avait toute la drôlerie extraordinaire qu'avez vous avez entendu Francis jouer les mamelles de Tirésias. Mais c'était un éblouissement, un feu d'artifice.
Ah, c'est fou, les joies de la paternité. 40 049 enfants en un seul jour. Mon bonheur est complet. Silence. Le bonheur en famille, pas de femme sur les bras. Le bonheur en famille, pas de femme sur les bras. Pas de femme sur les bras. Silence. Silence. Il faudrait peut-être les mener à la baguette, mais il vaut mieux ne pas brusquer les choses. Je vais leur acheter des bicyclettes, et tous ces capos, iront faire des concerts en plein air. Silence.
Quand nous étions à Rome, ma sœur avait alors 19 ans, elle venait d'obtenir le prix de Rome. Nous nous promenions dans les jardins de la Villa Médicis. Dans les jardins, nettoyant les mauvaises herbes, il y avait, nous avions l'illusion de la jeunesse qui croit qu'elle durera toujours, et elle nous paraissait antédiluvienne. La vieille femme, la peau toute ridée, avec des traits, elle avait dû être une beauté extraordinaire. Vous passiez, elle relevait la tête, elle souriait d'un sourire ineffable, et elle vous disait « Buongiorno » et per tutti il giorno. Et au moment où elle vous disait « Bonjour » et pour tout le jour, elle aurait pu vous dire « Bonjour », rien. Mais elle vous disait « Bonjour » et elle vous souriait. Nous sommes en 1976. Ma sœur est morte en 1918. Quand j'entends cette phrase, je me dis « N'oublie pas que tes jours sont bénis. Tu sais en profiter ou tu ne sais pas, mais ils sont bénis. » Alors vous me direz que ce soit supportable, c'est une manière beaucoup trop sérieuse de prendre la vie. Mais moi, ça m'est égal que ce soit insupportable ou ridicule ou naïf. Je dois mes plus grandes joies, et j'estime que les hommes doivent leur plus grande joie, à ces moments où ils ont saisi ce qui se présentait devant eux et en ont senti, non pas l'extérieur, mais la profondeur. Alors, il ne faut pas essayer d'être trop sérieux, mais moi, comme drôle, c'est un peu raté, parce que je ne sais pas d'histoire amusante, je ne suis pas spirituel, Et je suis heureux qu'il y ait des gens spirituels, mais ne pas être spirituel moi-même ne me manque pas. Je suis pas, mais je suis pas, c'est tout. Vous savez, vous avez entendu jouer le petit Makhanovitsky?
Paul Makhanovitsky, oui. Violoniste? Jamais, non.
Ah, c'est un grand violoniste qui a raté sa vie pour des raisons morales, de scrupules, de tragédies, enfin, mais qui est un grand, grand, grand violoniste. Et quand il avait 12 ans, il était chez moi à la campagne, et nous essayons vainement de jouer une pièce de Sarrasate. Mmh. Et ça sonnait assez mal, pour dire la vérité. Et Paul se tourne tout d'un coup vers moi, mais 12 ans. Eh ben, vous et moi, on n'a pas le genre espagnol.
Thank you.
vous entendez pour la première fois une œuvre, ou lorsque vous lisez pour la première fois une œuvre, est-ce que vous pensez que l'impression que vous ressentez, ou l'émotion que vous ressentez à ce moment-là, est la plus forte que vous atteigniez ?
Non, attendez. Je comprends qu'il y a un moment, une seconde de révélation. Mais pour moi, une œuvre que j'entends, je l'entends toujours pour la première fois. Je vous vois et je veux toujours vous voir pour la première fois. Il faut que chaque jour, ça soit une surprise. Alors maman nous disait, ah, surtout ne pas commencer à m'embrasser tous les jours à la même heure, ça deviendrait une habitude. Et puis elle disait, si je vous embrasse vous deux, mon père était déjà mort, si je vous embrasse vous deux, je ne veux embrasser personne. Parce que il n'est pas possible que je fasse le même geste vis-à-vis de Pierre-Paul Jacques et vous.
Lorsque vous jouez le thème de l'archiduc, le thème du mouvement lent du trio à l'archiduc,
oui.
Vraiment, vous pensez qu'en le jouant à l'instant même, aujourd'hui, il vous fait la même...
C'est pour moi la première fois. C'est toujours nouveau. Je ne veux pas que la vie se renouvelle. Ting, 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 ting. Moi, j'y retourne. Hier est passé. Je suis à aujourd'hui. Je suis à demain. Nous avons eu, pendant 6 mois ici, une voisine qui faisait de la musique. Et elle jouait 5 mesures d'un morceau. Rien d'autre. Et ce morceau était... Il y a des jours, nous avons été obligés de sortir, parce qu'elle avait le droit de le faire, mais elle pouvait recommencer ça 50 fois de suite. Ben, c'était chaque fois une nouvelle exaspération. Alors c'est épouvantable. Quelqu'un qui joue seulement cet accord-là. Moi, je sais que c'est l'archiduc. Nous pourrions rester pendant 15 jours à jouer une mesure d'un morceau et voir tout le morceau. Voir une carte postale de 4 sous et je vois le paysage. Ça ne me remplace pas, mais ça éveille en moi un monde toujours nouveau. Pourquoi est-ce que ça touche ? Ben parce que ça me touche. Je reviens à Tintoretto. Les belles couleurs ne s'achètent pas au Rialto. C'est tout, je ne peux pas aller dans une boutique pour trouver de la belle musique. Il n'y a rien à faire. Alors avec la musique que j'aime ou que je n'aime pas, s'il y a fondamentalement quelque chose qui m'éloigne, je dois essayer de comprendre, et je crois que je comprends. Je crois qu'il y a des tas d'œuvres que je reconnais pour être des chefs-d'œuvre tout à fait réussis, tout à fait dignes de respect, pour lesquels je n'ai pas d'amour. où je n'aime pas Loulou. Je n'ai pas de mentor, mais enfin, je n'aime pas Loulou. Eh bien, pas une fois, on ne passera Loulou dans la radio sans que j'écoute. Et ce qui a été terrible, c'est que la dernière fois, c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que ça m'a ennuyé. Alors là, je me suis dit, nous tombons de haut. Parce que ne pas aimer, c'est encore une image de l'amour. Mais l'indifférence, l'ennui, ce sentiment, je m'ennuie. Parce que si je m'ennuie, c'est que je porte de l'ennui en moi. C'est moi que je condamne.
Oui, en l'occurrence, si vous étiez ennuyé par Loulou, c'est simplement parce que vous n'étiez pas en état de réceptivité, probablement.
Oh, je ne crois pas. Oh, je crois que malheureusement, c'est par rapport à moi-même, beaucoup plus grave que ça. C'est que c'est une manière d'approcher les sentiments humains qui ne correspond pas à ce que je suis capable de ressentir. Je ne dis pas que ça me donne une supériorité, je dis que ça me donne une différence, une séparation. Mais ça ne m'empêche pas de connaître la partition, peut-être mieux qu'une partition que j'aimerais à tous égards.
Ihr stolzen Herren, ihr nehmsuchtigen Frauen, mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, der bändig durch das menschliche Genie. Was seht ihr in den Lust und Trauer spielen? Haustiere, die so wohlgezittert fühlen, am Last der Pflanze kost ihr Mütchen kühlen und schwelgen in behaglichem Geplärr, wie jeder andern unter dem Parterre. Das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sehen Sie nur bei mir. Sie sehen den Tiger, der gewohnheitsmäßig was in den Sprung ihm läuft, hinunterschlingt. Den Bären, der von Anbeginn gefräßig beim späten Nachtmahl tot zu Boden sinkt. Sie sehen den kleinen amüsanten Affen aus Langeweile seine Kunst verpaffen. Er hat Talent, noch fehlt jede Größe, drum kokettiere frech mit seiner Blöße. Sie sehen in meinem Zelte meiner Seele sogar gleich hinterm Vorhang ein Kamel. Sie sehen auch das Gewürm aus allen Zonen, reptile Molche, die Klüften wohnen. Sie sehen das Krokodil und anderes Bär. Den August bringt der unsere Schlange her. Sie war geschaffen, Unheil anzustiften, zu locken, zu verführen, zu vergiften und zu morden, ohne dass es einer spürt. Mein süßes Tier sei ja nur nicht geziert. Du hast kein Recht, uns durch Miauen und Fauchen die Urgestalt des Weibes zu verstauchen.
Je trouve qu'une œuvre académique parfaitement bien faite, que vous êtes obligé d'admirer, que vous reconnaissez, que vous admirez, mais que vous ne pouvez pas aimer, parce qu'elle ne contient pas cet élément que je ne peux pas définir. Parce que je ne sais pas la différence entre la musique, bien, et puis tout d'un coup, une mélodie de Schubert, si simple, où il n'y a rien, où il y a l'innocence, où il y a le mouvement spontané, irrésistible, et qui fait que c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans une œuvre d'art? qu'est-ce qu'il y a de vrai dans un homme ? On m'a lu une lettre d'un camarade de Schubert qui dit « Nous l'aimions beaucoup, nous trouvions un si bon compagnon, mais nous ne savions pas du tout, nous n'en rendions pas compte du tout qu'il était un tel génie. » Et dernièrement, il y a quelqu'un qui a fait une curieuse étude. Quelqu'un a eu le courage, peut-être un peu vain, de compter combien de notes avait écrit Schubert. Et il est arrivé à un nombre effroyable. Et il a essayé de dire, en dehors du génie, pour écrire ces notes, combien faudrait-il de temps ? Ayant fait son enquête, il a trouvé, disons, qu'il faudrait 25 ans. Eh bien, pour Schubert, il en a fallu 15. Mais il a écrit des millions de notes. Alors qu'est-ce que c'est même ce pouvoir ? Il le fait au lieu d'en parler. Et nous parlons de ce que nous ne faisons pas. Enfin, si j'en juge par moi-même, on parle de choses qu'on ne fait pas. On n'a pas le temps, on n'est pas... Mais Schubert n'avait pas le temps, Bach n'avait pas le temps, Savinci n'avait pas le temps, Fauré n'avait pas le temps, personne n'a le temps. Mon professeur, M. Vierne, était né aveugle. Et on l'a opéré quand il avait 26 ans et il a vu un peu. Il avait tellement touché le visage de sa mère, qu'il adorait, que le visage, il a compris très bien. Mais une chose ne lui paraissait pas supportable, c'est la manière dont la tête est attachée au cou et aux épaules. C'était pour lui horrible. Et puis on lui disait, prends ce crayon. Il dit, mais je ne peux pas, il est trop loin. Et il voulait prendre la maison, parce que la maison étant grande, il la voyait proche. Et il lui a fallu 1 ou 2 ans pour arriver à comprendre que grandeur ou petitesse n'avait rien à voir avec près ou loin. Il voyait les objets grands près et les objets petits loin. Dans quelle mesure est-ce que nous les voyons où ils sont réellement? Vous savez, moi je ne sais pas. Je crois que je sais, mais je ne sais pas. Et je sais que si je regarde un tableau de peintre, je découvre qu'il a vu des ombres et des lumières dans une proportion qui est contraire de celle que j'aurais imaginée. Mmh. Parce que je n'aurais jamais imaginé qu'à certains endroits, votre veste est très claire et que votre chemise est noire. Et je ne l'imagine pas, mais je le vois.
Oui, mais alors ça, c'est un élément de création que vous rapportez par rapport à l'objet que vous voyez.
Ah, c'est pas une création, c'est votre chemise.
Oui, mais puisque ça dépend de l'angle de perception, de l'angle de vision que vous avez.
Quelqu'un qui entend jouer de l'orgue se dit « Oh, quelle force il faut !» Oh, pour jouer un orgue de 500 jeux, vous donnez le même appui que pour jouer un petit flûteau de 2 pieds. Mais pour vous, vous ne faites pas un effort plus grand. Eh ben, celui qui entend l'orgue la première fois est ébloui par la force déployée. Mmh. On ne déploie aucune force. On obtient par un moyen extérieur une autre couleur.
Stravinsky dit « Si tout m'était permis, je serais permis dans cet abîme de liberté. » Alors, il sait qu'il y a des limites. Il connaît des limites. Et d'autre part, il franchit sans cesse les limites. Il est dangereux, il est imprudent de penser que l'ignorance fondamentale peut favoriser l'éclosion de la personnalité. Mais d'habitude, si nous regardons dans l'histoire du monde, de la production humaine, nous allons voir qu'il y a une espèce d'accord tacite et profond entre ce qui est réalisé et ce qui a été surmonté. Alors, moi, je trouve un cas très probant et très bon pour appuyer les réflexions. Vous prenez un ouvrage de l'importance du clavecin bien tempéré. Et vous avez en fugue 2 motifs. Un qui apporte la fugue réelle et un qui apporte la fugue tonale. C'est-à-dire que dans un cas, vous vous orientez, vous allez par la gauche, et dans l'autre cas, vous allez par la droite, sans prendre cette image à la lettre. Mais l'obéissance est telle que quand Bach prend une décision, elle correspond toujours à une règle, à une convention que vous pouvez énoncer en termes clairs. Donc, il commence par obéir. Mais dans l'obéissance, il est absolument libre. C'est lui qui choisit l'obéissance. Il subit pas l'obéissance. Il peut se faire qu'il la trouve établie. Étant élevé si petit dans la musique, il peut se faire que le langage n'ait pas posé en soi de questions à Mozart. Il semble que beaucoup de questions aient pu se poser pour Bach, sans en avoir aucune certitude, du fait qu'il a essayé toutes les formes de musique, qu'il a accepté les données. Le musicien est d'ailleurs soumis à des limites immenses, puisque déjà il a, d'une part, la limite que lui donne l'instrument et le moyen de développer ses limites et faire que l'interprète qui ne pouvait pas aujourd'hui essaye demain et réussit après-demain. Alors, je pressens, je remercie Dieu de penser que ces valeurs me sont mystérieusement intelligibles. Et je vais plus loin, je n'aime pas qu'on essaie de me les rendre claires. Parce que j'aime quelqu'un, je ne veux pas analyser combien de bactéries, combien de médicaments, combien il faut avoir des vitamines plus. Moi, je me dis, je me sens bien aujourd'hui ou je me sens mal.
Mais c'est ça qui me semble très paradoxal. Votre profession, votre occupation principale qui est d'analyser, et cette volonté de ne pas analyser en même temps.
Eh bien, je crois que c'est essentiel. Parce qu'il y a le domaine où on peut analyser et le domaine qui échappe à nos spéculations, qui est une autre spéculation qui fait les saints, les héros, les génies. C'est une autre race d'hommes. Vous comprenez, dès que vous me poussez, je suis obligé de vous dire que je ne sais pas. Et quand je dis que je ne sais pas, je vous dis, je vous déclare la grande victoire de la pensée. Je vous dis, je ne sais pas, donc je pense une pensée d'une manière meilleure et plus importante. Parce que quand je sais à ma mesure humaine. Je sais toutes les notes, do, mi, sol, ré, du double croche, tout. Je peux tout analyser. Mais une page, une ligne, une mesure de Schubert, je ne sais pas.
Thank you.
C'était le 13e entretien avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 16 août 1979.